qu'on en ait honte ou qu'on l'assume fièrement, bienvenue dans Fantasme, le podcast qui décrypte et décrispe vos sexualités. Moi, c'est Fleur Chéri. Passionnée par la sexualité, j'en ai fait mon métier depuis 10 ans en tant que journaliste, chroniqueuse et entrepreneuse dans le monde formidable du sexe. J'ai même monté une boîte de réalisation de fantasmes et depuis, tout le monde me raconte ses secrets les plus fous, les plus intimes. Au fil des discussions, je me suis rendu compte qu'on a tous et toutes des envies plus ou moins précises en tête, une routine, un motif, un petit kink, un fantasme qui nous fait vraiment décoller et dont on a du mal à se décoller. Parfois, on le découvre dès l'enfance, on est comme ça, on se sent différent des autres, troublé dans notre intimité. Parfois, on a connu une expérience dans notre vie d'adulte si exceptionnelle qu'on a envie de la revivre. Parfois, on a vécu des frustrations ou des complexes qui nous poussent à les extérioriser dans notre sexualité. Et parfois, on ne sait pas pourquoi c'est là, mais c'est là. Aujourd'hui, je reçois Malou qui va nous raconter comment l'exploration de ses fantasmes lui a permis de se libérer.
Je m'appelle Malou et j'ai 30 ans. J'habite à Paris et je suis dans le milieu artistique. Je suis actrice, chanteuse et je développe aussi des podcasts sur le thème de la sexualité avec Passage du Désir et le nom du podcast s'appelle Pédagogie et je suis ici pour parler de mes fantasmes.
Malou est une amie que j'ai rencontrée via son podcast. À la fin de notre échange, elle me confie que ce travail est militant. C'est une façon pour elle de parler librement du plaisir sexuel et de marquer une rupture avec la vision très traditionnelle de l'intimité que lui ont inculquée ses parents. Et comme souvent avec les parents, cela commence à partir de 10-11 ans, quand le corps se transforme et que les désirs sexuels naissent.
Avec des copines, on s'était exploré dans une maison, on était en vacances, et mes parents étaient ils nous gardaient toutes, et les parents de mes potes étaient des amis à mes parents. Et en fait, on s'était avoué, on avait 12 ans, 11 ans, on s'était avoué qu'on se touchait. Donc déjà, à cette époque, c'est tabou, tabouissime. Quand t'es une fille, tu ne dis jamais que tu te touches, t'es vue comme la dernière des dégueulasses, alors que les mecs, ils ont rien qui sort, ils s'en vendent déjà en sixième, quoi. Et nous, on était très, très pudiques là-dessus, et on s'avoue, on se faisait confiance, on s'avoue que, ouais, bah, quand on touchait cette zone-là, ça nous faisait du bien. Et en fait, on était en mode, bah, ça vous dit, ce soir, on teste toutes les trois, et la première qui ressent un truc qui change du quotidien, parce qu'en fait, on n'avait même pas de mots, on savait même pas que ça s'appelait orgasme, on savait pas que ça s'appelait masturbation, on savait pas tout ça. Juste, quand on touche à cet endroit, ça nous fait une autre sensation. C'était ça, nos échanges. Et du coup, on se dit, on se fait une soirée toutes les trois. Enfin, on était déjà dans la maison. On se dit, ce soir, on se touche chacune. Enfin, on touche pas les autres, mais on se touche chacune. Et la première qui ressent un truc qui change du quotidien, qui ressent un truc qui lui fait du bien, elle lève la main. C'est vraiment ridicule. Enfin, voilà, c'est un truc de, on était des gosses, quoi. Et on fait ça. Et en fait, le lendemain, mes parents me prennent à part et me disent, on est très déçus de toi. T'as fait un truc qui était pas bien du tout. Et en fait, là, je me liquéfie, genre, la honte, parce que je me rends compte que mes parents vont découvrir que je me touche. Donc double peine. Et en plus, ils me font comprendre qu'ils sont déçus de moi et que c'est la honte et que je suis une grosse dégueu, quoi. Et en fait, une de mes potes n'a pas assumé, parce qu'elle vient aussi d'une famille très catho, et a tout avoué à ses parents. En mode, je suis désolée, elle est en larmes. C'est encore une de mes meilleures potes, hein, on en a reparlé, elle s'excusait et tout. Mais sur le coup, du haut de ses 11 ans, avec son éducation, elle s'est sentie coupable. Enfin, elle a appelé ses parents, elle a dit, voilà, avec Malou et Anne, on s'est touchés et... voilà, c'est pas bien, blablabla. Bla bla. Donc les parents paniqués appellent les miens en mode « qu'est-ce qu'elles font? Vous les surveillez pas? Elles font quoi dans la chambre ?» Voilà, et moi, j'ai un caractère un peu leader et tout, donc c'est sur moi que c'est tombé, quoi. Et puis c'est eux qui ont la responsabilité, donc là, je me suis pris des foudres de « Malou, on va peut-être perdre notre amitié avec les parents de ton ami, tu te rends compte ce que tu nous fais subir, t'as pas honte ?» Et là, c'était les pires vacances de ma vie. Je rasais les murs, j'osais plus parler, j'avais l'impression que j'avais fait la plus grosse dinguerie que la Terre ait portée, quoi. Vraiment, je me suis sentie mais pleine de fange. Ça n'a pas eu d'impact sur ma masturbation, mais ça a eu de l'impact sur mon autorisation personnelle à accéder au plaisir en présence d'autres personnes.
Souvent, quand les parents sont mal à l'aise avec la masturbation, ils le sont avec l'ensemble de la sexualité de leur enfant qui va en grandissant. Et c'est pour ça que Malou a eu beaucoup de mal à intégrer ses premiers petits copains au sein de sa famille, À trop être tue, le sujet de la sexualité en devenait explosif et parfois assez mal géré.
J'avais eu un copain avec qui j'étais depuis 6 mois environ, que mon père connaissait, c'était un voisin. Et mon frère, à l'époque, était donc 3 ans de moins que moi, était sous une tente dans le jardin avec 3 filles. Donc il était plus jeune que moi et avec 3 filles avec qui il n'était pas en couple. Moi, mon père avait accepté que mon copain officiel qu'il avait rencontré puisse venir dîner à la maison et puisse dormir à la maison. Donc déjà, première step de réaliser, ok, mon copain peut venir dormir à la maison. Et en fait, on dîne, on va dans la chambre et on va se coucher et tout. Et puis, je sais pas, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, mon père frappe à la porte. Il n'ouvre pas la porte, il frappe à la porte. Je lui dis, oui, ne rentre pas. On était clairement en train de s'embrasser et tout. Et là, mon père dit, bah, je veux qu'Alexandre se rhabille immédiatement. Genre, comme s'il savait qu'il était forcément à poil. Enfin, il y avait déjà... Mon père était déjà en train de bouillonner, en fait, en imaginant ce qu'on pouvait faire. Je veux qu'il se rhabille immédiatement et qu'il rentre chez lui. Et il était 23h30, quoi. Donc, humiliation totale pour lui, déjà. Donc, il n'est pas le bienvenu. Pour moi, on est dans notre nid d'intimité, il casse tout et il me fait comprendre qu'il ne lui fait pas confiance, qu'il ne me fait pas confiance et que c'est comme si c'était un cambrioleur qui venait de passer par la fenêtre et qu'il n'avait rien à foutre dans ma chambre. Donc ça a été hyper violent pour moi. Il est parti, évidemment, hein, mon mec est parti. Et en fait, ça a débloqué. Donc sur le coup, j'étais très, très, très en colère. Et ça a débloqué sur une conversation. J'ai parlé à mon père, je lui ai dit, écoute, papa, c'est pas clean ce que tu m'as fait. Tu m'as dit oui, et là, tu reviens sur ta décision et tu lui parles comme si c'était la dernière des merdes, quoi. Et comme si, moi, je faisais la plus grosse des dingueries, quoi. On était tous les deux mineurs, enfin, voilà, et 17 ans. Et en gros, je lui ai dit, ouais, mon frère est à côté, sous la tente, avec des filles avec qui il est même pas en couple, on ne sait même pas ce qu'il fait. Il me dit, oui, mais lui, c'est un garçon. Vraiment, il a sorti ça comme ça, sans réfléchir. Donc ça a été hyper violent.
Aujourd'hui encore, l'éducation sexuelle pose problème car il existe plein de discours contradictoires sur la protection des mineurs et leur territoire de liberté. Par exemple, ils sont majeurs sexuellement mais ils ne doivent pas regarder de porno. Doit-on les protéger dès 15 ans ou au contraire les laisser librement expérimenter? Il existe un flou. Ce qui est dommage, selon moi, c'est que chaque restriction de liberté doit s'accompagner d'une ouverture au dialogue, d'un espace d'échange, d'explication, parce que face à l'incompréhension, le silence parental est parfois la plus grande des violences.
Ça a pu me créer des limitations psychiques de « je n'ai pas le droit de jouir, je n'ai pas le droit de me lâcher parce que c'est sale, parce que c'est pas bien vu ». Ça peut me retomber dessus. Alors, tu ne dis pas ça quand tu fais l'amour, c'est très enfoui. Je pense que ça a eu un impact très, 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 très fort sur ma sexualité. Donc, j'ai enchaîné après des relations, mine de rien, avec des mecs qui étaient. Qui étaient quand même pas d'une bienveillance extrême, qui étaient très centrés sur eux, autant dans leur façon de voir le couple, autant dans leur façon de voir la sexualité, autant dans leur façon de voir leur carrière, leur façon de construire leur vie.
On se demande souvent si l'éducation de nos parents a une influence sur notre sexualité d'adulte, sur nos fantasmes. Robert Plomin, un des experts de la génétique du comportement que je lis avec beaucoup d'intérêt, m'avait appris cette règle. Plus le temps avance, plus l'influence du cadre parental disparaît pour laisser place à ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire les gènes qui façonnent notre personnalité. Aussi, j'ai toujours eu l'impression qu'avec le temps, les parents vieillissant et nous évoluant dans un environnement choisi, les fantasmes et les désirs trouvaient plus facilement leur territoire d'expression.
Il y a 1 an, du coup, je découvre une appli grâce à une pote qui, elle, était en couple. Elle était en couple, mais voilà, ça battait un peu de l'aile. Elle avait des besoins d'aller voir ailleurs, mais elle était très amoureuse de ce garçon. Et donc, sa manière à elle de prendre un peu de liberté, ça a été de s'inscrire sur cette appli qui lui permettait en fait de rencontrer de manière virtuelle des hommes avec qui elle pouvait échanger tous ses fantasmes, en discuter par des vocaux, par des vidéos qui se détruisent en fait. Hein. C'est le principe, c'est vraiment de pouvoir se lâcher sans laisser de traces. Voilà. Donc c'est une appli qui détruit les choses au fur et à mesure. Les photos, elles durent 3 secondes, tout est contrôlé, voilà. Et en fait, on s'envoie tout ce qu'on veut. Et donc, moi, ça m'intriguait, je me suis inscrite dessus. Et en gros, on construit un profil. On met une photo ou pas, moi, j'en mets pas. Parce que je suis déjà tombée sur des gens que j'ai rencontrés dans le milieu pro. Et j'avais pas envie qu'on voit ma tête. Donc, je préfère l'envoyer en privé pour l'instant. En gros, on fait un profil. Et là, On met son orientation sexuelle, évidemment, on peut mettre sa localisation, son âge, sa taille, mais c'est surtout aussi qu'on peut mettre de manière ultra claire ses fantasmes. Avec une typo et un graphisme qui est très beau, voilà, c'est pas du tout glauque. La plateforme, ils ont grave travaillé sur le font et tout, c'est beau et tout. Et en gros, c'est une manière d'assumer quels sont tes fantasmes et peut-être aussi de aller chercher ce que t'as pas encore osé chercher ou que t'as même pas eu l'idée de chercher. Parce que du coup, les personnes, donc les fantasmes, ça va être par exemple fétichisme, mais il y a toujours une petite phrase rigolote derrière et qui a une image qui dédramatise. C'est pas juste, ouais, le fétichisme, je veux me faire bouffer les pieds. Enfin, c'est assez fin comment c'est tourné. Bon, alors après, voilà. Il y a du fétichisme, il y a domination, soumission, vouloir échanger. Il y a est-ce que je suis cinéphile? Est-ce que je suis excitée par l'intellectuel, sapio? Est-ce que je suis excitée par la littérature, par la musique, par la danse? Est-ce que je suis branchée cire? Est-ce que je suis donc cire chaude? Est-ce que je suis branchée bandage? Est-ce que je suis branchée cuir? Voilà, tous ces trucs-là.
À quoi correspond le mot cire? Il s'agit d'un fantasme dans le monde de la domination où le ou la soumise reçoit sur son corps des gouttes de cire, encore un peu chaudes, dans le but d'être décorée. C'est un fantasme qui se mêle à celui de l'immobilité, du contrôle de soi et de la chosification en objet d'art.
C'est grâce à cet appli que j'ai découvert un de mes pouvoirs, parce que du coup, en fait, on en a plein, mais on pense surtout au pouvoir, les seins, le regard, la voix, les fesses et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais un pouvoir aussi au niveau de mes pieds. Je n'avais absolument pas exploré ça avant. Et en fait, je me suis rendu compte que y avait des gars qui pouvaient vraiment kiffer se mettre à mes pieds, les masser, les embrasser, les lécher, les tapoter, voilà, se mettre en bas en fait et vouer une sorte de culte à ses pieds. Et je me suis rendu compte que ça me rendait folle. Genre que vraiment, ça mettait dans une position de ouf, ça, au niveau de la sensation, au niveau de la visualisation, enfin comme la scène quoi, à regarder, au niveau du fait aussi que la plupart du temps, les hommes, quand ils font ça, ils se mettent, et c'est trop beau à voir, mais ils se mettent dans un moment, dans une sorte d'instant présent, de calme, où du coup, ils oublient un petit peu leurs muscles, leurs bites, ils sont en position de calme, où ils prennent les pieds, et là, ils embrassent, ils touchent, ils massent. Et ça instaure une atmosphère beaucoup plus posée et sensuelle, je trouve. Et je me suis rendu compte, du coup, que j'avais un délire avec ça. Ça ne m'était jamais vraiment traversé l'esprit avant. J'avais un ex qui était assez branché sur tout ce qui était soumission et tout. Mais il n'osait pas l'explorer du tout. Donc, on n'avait pas pu... il avait dû vite fait m'embrasser les pieds. Je m'étais rendu compte que c'était cool, mais on n'avait pas du tout creusé. Et là, j'étais tombée sur un homme qui m'avait dit but en blanc. Je suis fétichiste. Et j'avoue qu'avant, je me disais, les fétichistes, c'est des mecs chelous qui ont la bave qui tombe. C'est un peu en mode, ils sniffent les culottes, ils sniffent les pieds. Enfin, c'est trop con. On a une image imaginaire collectif parfois qui est un peu con. Et en fait, ce gars-là, sur ce truc-là, c'était cool. Et ouais, ça m'a ouvert l'esprit. Je me suis dit, ok, je kiffe les pieds. Et même les pieds des hommes aussi, en fait, je peux les kiffer, quoi. Alors vraiment, avant, ça faisait pas partie de mon panel, quoi. Je peux les masser, je peux les embrasser, je peux les lécher. C'est un truc de malade. Jamais de ma vie, j'aurais pensé ça. Jamais de ma vie. Je leur dis, voilà, moi, ça me ferait kiffer que tu me fasses ça, que tu me masses les pieds, que tu me lèches les pieds. Et du coup, après, je leur dis, est-ce que tu veux que j'essaye sur toi? La plupart, ils me disent oui. Et là, je le fais, ils se détendent, ils sont allongés, ils sont calmes. Et là, je leur fais, je les masse, je leur fais des bisous, je suce les orteils et tout machin. Putain, les gars, ils accèdent à un truc. En fait, leur visage, il change, ils se détendent, ça change encore de tout ce qu'on connaît, qui est plus classique, quoi. Et ça les calme souvent derrière, quoi. Ça les pose. C'est cool. Moi, j'aime que l'homme prenne soin de moi. Je suis pas du tout dans le dirty talk, dans le tu me tires les cheveux, tu me fouettes, tu me trucs. Pas encore. Je dis pas encore parce que je sais pas. Je suis 30 ans et je me rends compte que j'ai plein de choses à découvrir. Mais pour l'instant, je suis plus dans le care, tu prends soin de moi. Et je suis dans le care de prendre soin de l'autre.
Derrière le fantasme du pied se cache aussi le fantasme du soin, qui est un thème récurrent dans la sexualité, en particulier celle des femmes. Avoir un temps qui ralentit au moment du sexe, voir que l'homme est dévoué et attentif à son plaisir, se sentir en sécurité et choyé.
Je me suis rendu compte que j'aimais bien aussi tout ce qui était, par rapport au cuir et tout machin. Ça j'aimais bien. Je me suis rendu compte avec un mec qui avait une ceinture en cuir et rien que le bruit en fait, ça me rendait folle. C'est vraiment, je me rendais pas compte avant. Donc je me suis rendu compte, j'ai pris un bout de son cuir, de sa ceinture, je me suis fouettée avec, mais c'est moi qui le faisais. Je me suis fouettée avec et j'étais en mode, mais c'est trop stylé, quoi. Et en fait, il gardait la ceinture au niveau de son bassin et je prenais le bout de la ceinture et je me fouettais un petit peu avec. Et c'est, pour moi, c'était comme si je faisais, c'était une prolongation de son pénis. Enfin, c'est très spécial, hein. Mais c'était en cuir. Je pense que ça ne l'aurait pas fait avec une ceinture en tissu.
Explorer ses fantasmes peut aussi passer par faire de nouvelles rencontres. Et c'est le cas de Malou, qui a vu à travers de nouveaux partenaires la possibilité d'élargir son espace de liberté. Merci d'avoir écouté Fantasmes, une production Atelier B. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.